I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier. Intime sur l'argent.
Acheter plus, optimiser les marges pour acheter encore plus, pour optimiser les marges, pour acheter encore plus, pour optimiser les marges, sans aucun but. Il n'y avait pas d'investissement, l'argent sale, hein. Tu ne peux pas investir dans un appartement et puis de toutes les manières, quand tu fais, je dis une bêtise, mais peut-être 500 euros de bénéfices par semaine, tu ne réfléchis pas à un appartement.
Voici un entretien étonnant, à la fois sincère et exceptionnel. Un peu tout ce qu'on aime en somme. Mais tandis que certains se servent de leur argent pour tenter, souvent désespérément, de rester jeune, en discutant avec le sympathique Mao, 25 ans, je me suis surprise à me demander si la thune n'avait pas aussi le pouvoir de faire grandir, peut-être très vite. Lorsqu'on y est confronté jeune, lorsqu'on apprend à la manier comme un adulte, est-ce qu'on gagne en maturité ou est-ce qu'on sacrifie une part d'enfance? À vous de me dire. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Mao Aoust. À 25 ans, Mao, tu dois être le plus jeune interviewé de thunes. Mao, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as gagné de l'argent?
C'était des trucs un petit peu nuls. Je pense que la première fois où j'ai gagné de l'argent, c'était en allant chercher de quoi fumer pour une soirée entre amis.
Alors, t'as quel âge ?
14, je pense. 14, 15, dans ces eaux-là.
14 ans ?
Ouais.
Tu gagnes combien ?
Alors là,
genre 50
balles ? Je gagne même pas d'argent, mais plus de quoi garder pour la maison.
Ah, et tu considères, c'est marrant parce que je t'ai demandé la première fois que t'as gagné de l'argent.
Ouais. Ben, en soi, c'est un gain qui vaut de l'argent. Après, je pense que très rapidement derrière, j'ai trouvé une solution pour que ça me rapporte de l'argent, mais du coup, du papier et pas de la matière.
Pas de la matière qui se fume, mais de la matière qui peut s'écouler dans n'importe quel magasin.
Voilà, exactement. Ouais.
T'as dealé de la drogue assez jeune.
Ouais. Pour un policier, en fait, le deal, c'est dès le moment où tu offres quelque chose, que tu récupères de l'argent ou pas pour cette personne. Donc, théoriquement, pour un policier, ce dont je viens de te parler là à l'instant, c'est du deal. Tu peux être inculpé de trafic pour ça. Offre, cession, détention, nanana.
Et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise ?
Oui.
J'ai lu que ton entreprise qui s'appelle High Society.
L'entreprise, elle s'appelle CMCMR's Distribution. C'est vachement moins funky. C'est le nom de la marque High Society.
Ok. Et t'es valorisé, j'ai lu ça dans les échos, je crois, à 26 millions. Ça me paraît énorme.
Non, je pense que la valorisation, elle se situe plus entre 50 et 100.
50 et 100 millions ?
Oui.
Ça veut dire que si tu la vendais aujourd'hui, cette boîte, tu pourrais en tirer cette somme-là.
Alors, si tu veux, dans ces sommes, la valorisation, elle est toujours en rapport avec ce que l'acheteur est prêt à poser sur la table. C'est-à-dire que c'est des valorisations qui ne sont pas hyper factuelles.
C'est virtuel, c'est, on imagine ouais, que c'est, tu l'as avant demain.
C'est clairement virtuel, c'est-à-dire qu'une marque, ça a de la valeur parce que tu as des personnes qui sont attachées à cette marque.
Tu as une formation commerciale, toi ?
Non, pas du tout.
Bon, on va peut-être revenir un peu sur ce parcours qui t'amène de 50 euros pour aller acheter du shit pour des copains en soirée à 14 ans à 100 millions de valorisation de boîte. Toi, tu es né à Marseille, c'est ça ?
Oui, je suis né à La Conception. J'ai fait mon école au Cours Julien. Je crois que j'étais à la rue d'Aubagne, après rue Bucine-Indien. Ouais, c'est vraiment Cours Julien, Notre-Dame-du-Mont, La Plaine. Après, on a bougé plus vers Chaves, Baye.
Qui restent pas des cités de Marseille. On n'est pas sur les cités quartier nord.
Ouais. La différence entre Paris et Marseille, c'est que Paris, si tu veux, la criminalité, on va le dire comme ça, elle est excentrée. Elle est vraiment dans la couronne, ça s'appelle. Hein. Ouais. Marseille, c'est partout, en fait. Je sais pas comment ils ont fait à Paris. Ils ont réussi à bouger tout le monde du centre-ville. À Marseille, même dans le centre-ville, c'est bordel.
Tes parents, je crois que ta mère est couturière, c'est ça ?
Ouais, mais... pas juste couturière, elle design ses propres vêtements, elle les coud, elle les vend. Ça peut arriver qu'elle sous-traite la... comment on appelle ça ?
La fabrication.
La couture, ouais, la fabrication, merci.
Et ton père est dans le bâtiment.
C'est la liberté, exact.
Ouais. Et donc il a une entreprise de bâtiment. Il avait une entreprise de bâtiment.
Non, il l'a toujours.
Il l'a toujours.
Oui, il l'a toujours. Mais petite entreprise mignonne, pas un très très gros truc comme on pourrait l'imaginer. Petite entreprise, il a un associé, une personne qui travaille avec lui, qui est son partenaire privilégié.
Et est-ce que vous parliez d'argent à la maison quand tu étais petit ou...
C'est une très très bonne question. Je pense que je ressentais un petit peu un manque qui était très loin d'être justifié quand j'étais petit.
T'as des frères et sœurs ?
Ouais. Oui, j'ai une petite sœur et j'ai un demi-frère du coup.
Mais du coup, quand vous étiez petit, toi tu ressentais un manque, mais ça veut pas dire qu'il y en avait.
Non, je pense pas qu'il y en avait, on vivait bien. On vivait bien, mais c'était des trucs hyper méga nuls. T'es à l'école, tu te compares avec les collègues, ils ont les téléphones ou les MP3 ou je sais même plus ce que... Je pense que tous les enfants ont ça en réalité et que c'est clairement injustifié. Et on vivait très bien. Une scène dont je me souviens, c'était... j'étais chez moi, je voyais les meubles. En fait, ma mère, elle aime bien faire les brocantes, les meubles un peu vintage, anciens, tout ça... Mais ça peut faire un peu crado. Quand c'est pas ce que tu kiffes, ça peut faire un peu crado. Et je voyais ça, plus les plantes un petit peu en train de mourir, une maison pas nickel comme on l'imagine sur Internet, à la télé ou dans les magazines. Et je me disais, merde, il y a un truc qui va pas. Mais c'est débile, en fait. Hein. C'est clairement débile.
T'aurais envie que ce soit neuf, que ça,
ouais,
paraisse, que ça claque plus comme sur Insta.
Grave. Ou... Ouais. Moi, je suis pas un mec du vintage ou de... Moi, j'aime bien les trucs en plan genre Apple. Tu vois ce que je te parle pas du téléphone, mais
non,
le design du magasin.
Quoi.
Ouais, ouais, voilà, minimaliste, ouais. Mais tout clean.
Tout clean. Ouais. Et alors, donc, assez jeune, tu te mets à dealer.
Ça... Mais c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas réfléchi comme du deal, c'est réfléchi comme de la débrouille. Je trouve que c'est un peu crade comme mot. Ça fait vraiment le trafiquant de drogue, méchant.
Scarface.
Ouais, qui tape les gens pour récupérer son argent, qui tue les autres dealers. Non, je me débrouillais pour avoir des trucs cons, hein, pour m'acheter des chaussures ou un scooter, ou pour à la base m'acheter de quoi fumer parce que c'est pas trop quelque chose que tu peux demander à tes parents, ou juste pour pas dépendre de tes parents en fait.
Donc au début, c'est pour ta propre consommation ?
Ouais, je pense que ça a dû commencer comme ça. C'était à partir du lycée, puis rapidement au lycée, il fallait le scooter, il fallait les jolis vêtements, il fallait avoir le paquet de cigarettes plein,
Plus de besoins.
Plus de besoins, moins l'envie de dépendre des parents.
Tes parents, ils te filaient de l'argent de poche ?
C'est une bonne question, non. Ma grand-mère, elle me filait un petit peu d'argent de poche, mais pas de quoi m'acheter des clopes, quoi. Mais ça coûte cher de fumer, hein. C'est quoi ? Ouais, à l'époque, il était pas 10 balles le paquet, mais c'était peut-être pas 7 euros.
C'est déjà beaucoup, hein.
Ouais, 7 jours. 7 jours, attends, fais un petit calcul. Ça fait 210 balles par mois. Je pense pas qu'elle me filait 210 balles par mois. Et alors, si tu rajoutes les matières illicites, peut-être que tu rajoutes encore 100, 150 balles par mois.
Donc,
et
déjà,
alors, si
avant d'avoir
sortir
rien fait.
Des filles, imagine,
ouais, voilà.
Ah ouais. Que tu veux leur payer un petit truc à boire ou je sais, ça monte. T'as besoin rapidement de 500 euros, 600 euros, 1000 euros. Après, tu veux le scooter. Pour acheter encore 600, 700, puis t'as l'essence, peut-être 5 euros par jour. Et ça va vite. Et puis, ouais, tu peux pas gratter à tes parents à 15, 16 balais, 17 balais, 1000, 1500 euros par mois. Enfin, en tout cas, on vivait bien, mais pas au point que je sois en capacité de demander. Enfin, t'as compris, 1500 euros par mois, c'est beaucoup.
C'est quasiment un salaire. Tu te fais assez rapidement, en fait, un salaire.
Non, je comptais pas.
Tu comptais ce que tu dépensais, en tout cas.
Ouais. Non, je comptais pas ce que je dépensais, mais je dépensais au minimum. Mais j'étais pas du genre à, ben voilà, j'ai fait 400 euros de bénéfice, je vais m'acheter, je sais pas, un t-shirt Louis Vuitton. Je sais même pas combien ça coûte un t-shirt Louis Vuitton, mais je vais pas m'acheter un t-shirt Louis Vuitton.
Pas de
Et
trucs
puis après,
show-off. Ouais.
si tu regardes, à cet âge-là, les gens qui font un petit peu du GIL, ils sont tellement malins qu'ils arrivent à dépenser non pas le bénéfice, mais le chiffre d'affaires. Ils n'arrivent pas encore à faire la différence entre les deux. Et, ouais, bon, et même jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, il y en a qui font encore ça. Non, j'étais quelqu'un qui dépensait beaucoup moins que ce que je faisais en termes de bénéfices.
Tu mettais de côté?
Je mettais de côté. J'ai toujours mis de côté.
Ah ouais.
Pour réinvestir plus dans des trucs débiles, hein, mais pour réinvestir systématiquement.
T'avais l'idée de réinvestir dans quoi?
Ah, toujours dans les mêmes merdes, mais acheter plus, optimiser les marges pour acheter encore plus, pour optimiser les marges, pour acheter encore plus, pour optimiser les marges, sans aucun but. Il n'y avait pas d'investissement, de l'argent sale, hein. Tu peux pas investir dans un appartement. Et puis, de toutes les manières, quand tu fais, allez, c'est une bêtise, mais peut-être 500 euros de bénéfice par semaine, tu réfléchis pas à un appartement.
Ouais, surtout à cet âge-là,
Oui,
peut-être aussi.
surtout.
Ouais.
Non, ça, par contre, j'étais plutôt. J'avais un petit peu enfin, je voyais comment c'était censé fonctionner la vie d'adulte, on va le dire comme ça, à cet âge-là. Mais tu peux pas te projeter en faisant 2000 euros de bénéfices par mois sur l'achat d'un appartement.
C'est quand même énorme, hein. Est-ce que tu penses qu'à un moment, à cette époque-là, tu as pu gagner plus que tes parents, par exemple? Alors que tu étais en train de...
Putain, c'est hyper violent comme question. Je pense que, ouais, à 17 ans, j'ai gagné plus que mes parents.
Ils ne le savaient pas.
Je suis.
Ils s'en doutaient.
J'avais pas d'appartement, je vivais chez eux.
Ah, ils
Et
voyaient tout, ouais.
ça, ce genre de truc, ça, je sens trop pour être bien caché. Ouais.
Est-ce que ça t'a coûté de gagner de l'argent comme ça?
Qu'est-ce que t'entends par coûter?
Je sais pas, est-ce que tes parents te faisaient des réprimandes? Est-ce que ça créait des conflits? Est-ce que c'était beaucoup de travail?
Non, mais c'était une sorte de prétexte pour chaque embrouille. Enfin, ça ressortait dans les embrouilles. Je te dis une bêtise. T'es en train de t'embrouiller avec ta copine ou ton mec. Et à la base, l'histoire, c'est la vaisselle qui n'est pas faite. Ben, d'un coup, tu vas avoir toutes les merdes autour qui vont ressortir. Ben, je pense que ce genre de choses, ça ressortait systématiquement dans la moindre embrouille. À 17 ans, tu m'aurais dit, ouais, t'arrêtes ça. Non, je me casse. Je me casse, j'ai de quoi m'acheter, me prendre, me louer un appartement. Au revoir, merci.
Ça te donnait une indépendance.
Ouais, mais j'ai toujours été indépendant. Du coup.
Ouais, du coup, c'est très très jeune en tout cas. Ça doit
Ouais.
être extrêmement gratifiant. Et alors, est-ce que tu te projetais? Parce que tu as passé ton bac.
Ouais.
Donc, tu t'es pas projeté en te disant peut-être je vais continuer toute ma vie. Ou en tout cas,
Le
tu.
deal de drogue.
Je sais pas.
Non, parce que t'as des ups et des downs. En fait, t'as un truc dans le business où t'es pas censé savoir monter une société et l'amener très très loin si t'en as pas crashé quelques-unes avant. Ben moi, j'ai déjà crashé des business de drogue avant.
Cracher, ça
Mais
veut dire.
cracher, c'est repartir à zéro.
Ouais, mais comment tu fais pour la drogue? Je vois pas comment ça peut ne pas rapporter d'argent. Donc, comment tu fais pour te cracher? Faut avec de la drogue. Tu te la fais piquer ou tu te fais pas payer?
Ouais, par exemple, ce genre de choses où il y a une personne qui part en prison ou
Avec ton argent ou avec
ouais, ce
ou
genre
avec
de choses.
ta cargaison?
Donc ça fait up, down, up, down, up, down. Et quand j'étais en plan, ok, je passe mon bac, c'était pas loin après un down. Donc je me dis, bon, je vais faire quand même des études, sait-on jamais.
Tu
Ça
croyais aux
reste
études?
quand même incertain. Ou à certains moments dans ma vie, j'y ai cru. Je me suis dit plein de choses. Moi, je voulais faire kinésithérapeute à un moment. Ou psychologue. J'aime bien. J'ai des mains magiques. Elles sont tout le temps brûlantes. Donc je me suis dit, c'est grave cool. Et puis, kiné, c'est incroyable comme métier. Quand tu y réfléchis, les types, ils ont genre 5 pièces. Ils facturent, c'est quoi? 50, 100, 150 de l'heure. Ils peuvent prendre 5 patients en même temps. Il y a tout qui est remboursé par la sécu. Je me suis dit, ok, business cool. Ça me fait kiffer. Je pense que je sais le faire. Que je peux le faire, j'ai les capacités de le faire. Et après, le problème, en fait, avec la kinésithérapie, c'est que pour aller dans ce cursus-là, il faut faire la première année de médecine, je pense que tu sais. Et la première année de médecine, c'est un truc un peu violent. Où typiquement, si t'as pas tes parents derrière, bah, ça fonctionne pas.
Ah, tu peux pas vraiment travailler en même temps.
Non, c'est impossible, totalement
Ouais.
impossible. Et il me semble qu'après, t'as des classements quand tu fais ta première année, le PACES. Et il faut être assez haut dans les classements pour avoir la possibilité d'aller en kinésithérapie. Mais c'est des études où si t'es pas focus à 100% dedans, c'est mort.
Et alors oui, non, ça s'est pas passé comme ça en fait. T'as pas fait ni kiné ni psy.
J'ai pas fait ni kiné ni psy parce que le passé c'est trop compliqué. Avec mes parents, je pense pas qu'ils. Je sais même pas si j'ai eu cette discussion avec eux, mais je pense pas qu'ils auraient pu assumer une année. Que j'ai jamais réussi à mettre suffisamment d'argent de côté pour vivre toute une année sans faire d'argent. Et je crois que même c'est un petit peu payant le passé. Hein. T'as des frais d'entrée, il y a pas mal de trucs que tu dois payer de base. Plus l'appartement, etc. Donc, ouais, pas possible. Et en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est brevet, lycée. Donc, j'ai fait 2 ans art, métier d'art, communication visuelle. Mais c'est assez cool parce que tu fais un peu d'histoire de l'art, tu maîtrises la suite Adobe, Illustrator, Photoshop, InDesign, etc.
Le fait à ce moment-là que tu vendes de la drogue, ça t'empêche pas de. D'avoir une vie quasiment parallèle comme élève
Non, en aucun cas. J'étais un élève horrible. J'ai toujours été un élève horrible. J'ai un très très gros problème avec l'autorité. Et sincèrement, les 2 dernières années du lycée, je suivais. La seconde générale, j'étais hyper, comment on pourrait dire, rigoureux,
focus.
Organisé, etc. Mmh. Focus. Première bordel. Terminale, j'y étais pas du tout. D'ailleurs, je me souviens, tous mes collègues de classe étaient dégoûtés parce que je ne suis pas venu de l'année. Et je venais au lycée pour récupérer de l'argent, c'est tout.
Ça, j'ai une vraie question là-dessus parce que tu es le premier dealer, ex-dealer, qu'on interviewe pour Thune. Et moi, j'ai cette idée que les dealers, c'est un métier, si c'en est un, assez particulier, en tout cas une activité rémunératrice assez particulière, qui peut-être fausse pas mal les relations que tu peux avoir avec les gens.
Dans quel sens ?
T'es celui qui est peut-être aimé pour le service qu'il rend, pour ce qu'il vend.
J'ai jamais eu plus qu'un collègue, un ami.
T'as jamais eu
d'autres amis, exact.
Plus qu'un ami ?
Ouais.
T'as un seul ami ?
Ouais. J'avais un seul ami.
T'avais un seul ami.
Ouais, aujourd'hui, je pense que j'ai plein d'amis, mais après, c'est toujours pareil. C'est est-ce que j'ai des amis parce que, en tout cas, moi, il y a beaucoup de gens que je considère, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'eux m'aiment beaucoup parce que j'ai réussi ? J'en ai aucune idée.
C'est vrai que tu peux te retrouver dans une situation un peu similaire, ouais.
On verra.
Dans le côté success story, tu veux.
On verra quand je serai dans le down, du coup. Et alors.
Ouais, donc à cette époque-là, tu te dis, j'ai un ami, quoi. Le reste, c'est des relations.
Professionnelles.
Ouais. Ouais. Ça va être compliqué, hein, même à titre personnel.
Non, pourquoi ?
Ouais, je sais pas, même avec les copines, tu vois, enfin.
Non, parce que j'ai toujours été un lover, j'ai jamais trop couru après les filles, moi. Je crois que ma première petite copine, j'ai dû me mettre avec elle à 14, 15 ans. Après, j'en avais plusieurs à ce moment-là. Après, j'ai très vite fait le choix d'en garder une seule. Enfin, elle m'a forcé à faire ce choix-là. Et je suis resté avec elle jusqu'à. Je pense 17 ans, 18 ans, un truc comme ça.
Oui, c'est assez long à cette époque-là. Hein.
Non, peut-être moins. Je sais plus, 3-4 ans, je suis resté avec elle, mais je courais pas après les filles, quoi. Jamais trop couru après les filles. Rapidement derrière, j'ai retrouvé une autre personne avec qui je suis encore.
Ah ouais, donc t'es sûr qu'elle t'aime ni pour ta weed, ni pour ton argent ?
Bah, la fille avec qui je suis là aujourd'hui, elle m'a rencontré plus dans un down. Donc, elle s'est pas mise avec moi pour l'argent. Et la fille dont je te parlais juste avant, je l'ai rencontrée, j'avais pas un rond. Eh ben, en gros, j'étais un bébé, donc bon, pareil, plus pour rien du tout, pour moi, j'espère, je sais pas.
Alors, est-ce que t'as arrêté de vendre parce que tu t'es fait arrêter, justement ?
T'as pas nécessairement le choix,
c'est ton joker.
Puis quand tu fais un braquage, ou les trafiquants, c'est pas des violents par essence. Tu deviens violent parce que t'as pas le choix. En général, tu sous-traites parce que t'as de l'argent. Mais un trafiquant, c'est pas quelqu'un qui est violent. Et je vais pas dire qu'on se confronte jamais à la réalité de la disruptivité de notre monde. Mais quand t'arrives dans ce contexte-là, garde à vue, commission rogatoire, audience, mandat dépôt, ce genre de choses, bah, tu te rends compte en fait que ça a été dans le dur. Et moi, j'ai eu de la chance de ne pas faire mandat dépôt. Mais
t'es pas allé en prison ?
Non, je suis passé vraiment un millimètre de la prison. C'est-à-dire que je me suis fait attraper. Derrière 3 jours, 4 jours à l'évêché, à Noailles, j'ai fait plusieurs postes avec ma copine d'ailleurs et un collègue à moi qui avait été arrêté en flagrant délit. Flagrant délit, je lui avais refilé un truc juste à ce moment-là. Donc ils ont tous chopé. Et
T'as quel âge à ce
ouais,
moment-là?
procureur, tout le bordel. J'avais 20 balais. Non, je pense 19 ans. Je pense 19, ouais.
T'avais déjà ton bac.
J'avais déjà mon bac. Oui, j'avais mon bac,
Ouais.
effectivement. Donc j'étais majeur vacciné.
Ouais.
Et ouais, bah, tu captes que t'es dans le dur et tu te dis, bon, en fait, c'est pas des lol, quoi. Pas des lol, tu peux partir en prison, tu peux te retrouver avec des vrais méchants,
Tu dois payer un
des vrais
avocat à ce
violents.
moment-là?
Oui, j'ai payé un avocat, j'ai pris un an ferme. Et tu sais, avec Taubira, en dessous de 2 ans, c'est aménageable, j'avais des garanties de représentation, j'étais blanc, j'avais les yeux bleus, des parents, etc. Et j'étais dans le cursus droit, même si j'allais pas vraiment en fac. Du coup, bon, ça justifiait le bracelet électronique.
À ce moment-là, au moment où ça arrive, où tu te dis que tu te vas te arrêter, tu as de quoi voir venir.
Ouais. Parce que je touchais la bourse à ce moment-là.
Allez.
Ouais.
C'est combien la bourse par
Ouais,
mois?
entre 400 et 700 par mois, je pense, hein, quelque chose comme ça. Je sais que j'avais gagné, enfin gagné, j'avais storqué au gouvernement peut-être 3 000 euros, 4 000 euros avec la bourse. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais inscrit en fac de droit. Je me suis dit, bon, si jamais ça me plaît, je reste, mais pas le temps.
Et alors, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand il faut éventuellement se reconvertir?
Je me tâtais à partir en Espagne. Parce que pour moi, le cannabis était vraiment un secteur d'avenir. Donc je me suis dit, ok, je vais en Espagne et je vais monter un social club en Espagne.
Je vais faire la même chose, mais légalement.
Ouais, exact. Parce que j'étais un bon grower, on appelle ça. Un bon fermier.
Ah bon, fermier, ça veut dire que tu penses que tu es meilleur vendeur ou que tu es meilleur agriculteur?
Je suis incroyable dans tous les domaines.
Et
Non,
donc.
je pense qu'aujourd'hui, maintenant, je vois des professionnels qui travaillent sur des installations coûtent 10, 15, 20, 50 millions. J'étais une merde. Mais ça va. Je suis un garçon curieux qui pousse très très loin dans les recherches. J'appréhendais ça vraiment comme un travail quand je produisais. Je faisais ça de manière très très sérieuse et assidue. Je passais mes journées à faire des recherches.
Pour avoir une excellente qualité
Ouais, pour
de
améliorer le
produit.
rendement, pour il y a trop de trucs à savoir. T'es dans un océan et puis tu sais pas du tout où aller l'île, donc il faut que tu explores tous les côtés en fait.
Et le côté commercial?
Je pense que j'étais pas mauvais, ouais. Je pense que j'étais pas mauvais. Après, c'est un marché, c'est comme n'importe quel marché, hein. T'as un prix de marché, t'as une demande, t'as une offre, et puis en étant l'offre, il faut que tu te cales au prix de la demande, quoi, point.
Donc tu imagines que tu vas partir en Espagne faire la même chose,
Ouais,
puisque tu te dis que
exact.
t'es pas si mauvais dans ce domaine-là,
Exact.
et finalement tu n'y vas pas.
Et finalement, j'y vais pas parce que ça commence à arriver en France. Bon, en dessous de 0,2% de THC, donc c'est pas exactement le même produit, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes.
Le CBD.
Ouais, exact.
On est pile poil au moment où ça arrive.
2018, été 2018.
Ouais. Donc là tu te dis, tiens, en fait je peux faire la même chose ici. Comment tu bascules sur le CBD? C'est pas simple comme reconversion. Enfin, parce que le CBD, ça se vend dans des boutiques. Alors là, on est complètement dans le domaine légal. T'as pas de formation en commerce.
J'ai pas la théorie. J'ai pas la théorie, mais pour moi, la théorie, ça sert pas à grand chose. Sincèrement. Je vois les gens que
Comment
j'ai
tu
autour.
démarres, quoi, déjà, au départ? Est-ce qu'il t'a fallu
Je
de l'argent pour
vois
démarrer?
un article sur je sais plus quel magazine, et puis c'est un type qui est en train de monter un magasin où il vend du cannabis légal, parce que c'était les termes qui étaient utilisés à l'époque. De mémoire, c'était à Besançon. Dédicace à ces personnes-là, d'ailleurs. Et. Ouais, je me dis, ok, je vais faire la même chose. Pourquoi partir en Espagne alors que je parle pas espagnol, je connais personne là-bas et que en fait je peux faire exactement la même chose avec le même produit là, dans ma zone de confort. Et après voilà, hein. Comment tu fais pour remplir le formulaire M2, pour avoir un cabis, pour monter un magasin, par vraiment from scratch et puis on apprend tout.
Donc tu commences
Tout
par un
de A à Z.
magasin.
Ouais. C'était genre 10 mètres en dessous du magasin de ma femme et 50 mètres en dessous d'un endroit où j'ai grandi. C'était
donc
mon
chez toi,
quartier,
quoi.
C'était mon fief. Ouais. C'était pendant la Coupe du Monde du football. Donc ça a très très bien marché très rapidement.
Et tu mets de l'argent au départ dans l'affaire. Tu dois décaisser de l'argent pour prendre le local, pour acheter
Bien sûr.
Donc c'est de l'argent que tu avais déjà.
Sur mon compte.
Ouais.
Ouais. Qui n'était pas de l'argent blanchi.
Ouais.
Mais de l'argent.
De
la bourse, du mois que j'avais fait au chantier avec mon père. Peut-être qu'il y avait un petit peu d'argent que ma grand-mère elle m'avait versé dessus, genre l'argent de poche, je sais plus ce qu'il y avait.
Ta mise de départ, t'as une idée de combien elle est ?
15. Plus ou moins. Dans ces eaux-là.
Tu te dis, ça peut ne pas marcher ou
Bah. On va dire que leur rapport au risque, quand tu fais du trafic ou que tu fais des bêtises, que tu fais pas un cursus parfaitement légal toute ta life, il est un petit peu plus simple. Tu as moins la dimension de peur. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai démarré en 2018, là où certaines personnes ont démarré en 2021.
Ah, tu penses que, en fait, toutes ces années de trafic, ça t'a, en quelque sorte, donné. Ouais, une assurance, en tout cas, ça t'a permis de braver plus facilement peut-être les flips de quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat.
Ouais, grave.
Une maturité, en quelque sorte.
Je sais pas si on peut appeler ça une maturité, mais...
Ou une inconscience.
En tout cas, juste le rapport au risque et la peur, tu l'as moins. La peur, tu l'as moins, le rapport au risque, il est plus simple.
Tu te dis que si jamais ça marche pas, tu pourras trouver autre chose, tu pourras encore rebondir.
Ouais, exact, c'est ça.
T'as déjà rebondi avant, donc...
J'ai rebondi toute ma life. J'ai dit des up et des downs, j'en ai fait plein, même si c'était toujours plus ou moins dans le même domaine. J'ai toujours eu plein de problèmes et j'ai toujours su surmonter ces problèmes. Bah, Coupe du Monde, engouement autour du cannabis légal. Toutes les 3 secondes, quelqu'un qui rentre dans le magasin qui dit mais c'est du cannabis thérapeutique, c'est autorisé maintenant. Et non, ça marche super bien. Et rapidement derrière, en fait, je crois que de base, mon plan, c'était, je me suis associé avec une personne qui avait mis plus ou moins la même mise. Je crois même exactement la même mise. Et l'idée, c'était d'ouvrir 3 magasins très, très rapidement, mais genre sur 20 jours ouvrés, quoi. Sur un mois et demi, max.
Déjà direct, tu t'es dit, je vais ouvrir...
Mais en fait, tu veux, t'as eu cette histoire à Besançon. T'as eu ce magasin à Besançon, cannabis légal, et puis t'avais un magasin à Paris aussi. Et ça, c'était vraiment horrible parce que j'étais en mode cabis, signature des beaux, il faut trouver la marchandise, créer la marque, etc., faire l'Instagram, bref, tous les trucs, tous les combats que surmonte un entrepreneur à la création d'une...
Du bricolage à fond, quoi, tu fais les vitres,
voilà,
en fait.
Voilà,
hein.
Du bricolage.
Paperasse, et, tout, quoi.
À ce moment-là, moi, quand je suis en train de monter l'affaire, je vois genre des stories tous les soirs, je sais plus si c'était Instagram, Snapchat ou peu importe, mais d'un type à Paris qui ouvre, qui fait une bonne com. Lui, c'était pas son premier coup dans l'entrepreneuriat. Et il a la queue, mais style sur 2 ou 3 rues. Enfin, un délire total. Un délire total. Je me dis, ok, ça peut que fonctionner. De toute façon, c'est du cannabis. Tout le monde en consomme. Et pardon, en amont, en fait, j'avais une autre entreprise et j'avais déjà fait un mini test marché. C'est le grand truc en ce moment, c'est, tu sais, quand tu lances une entreprise, avant, il faut tester le marché. Il faut pas passer 15 milliards d'années à faire la marque, à faire le site, à réviser chacune des fonctionnalités. Il faut tester le marché en premier. Et ça, je l'ai eu instinctivement. Je suis allé tester le marché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé genre 200 grammes en UK, au Royaume-Uni. Et j'ai mis des annonces sur Facebook, tu sais, sur des groupes, ce genre de choses. Et moi, j'avais ma moto. Et voilà, je me disais, livraison possible, patati patata. Je crois les premiers jours, j'ai dû faire 300 balles, 400 balles, 200 balles. Ça tournait dans ces eaux-là entre 200 et 500 balles. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Je dis, ok, ça fonctionne. Parce que de base, quand tu sors du domaine du trafic, tu te dis, mais attends, de la beuh qui ne défonce pas, qui, je le rappelle, à l'époque, était vendue entre 15 et 20 balles du gramme, qui est vendue 2 à 3 fois plus cher que le marché, que sur le marché noir. Est-ce que les gens, ils en veulent vraiment? Et les types, ils rappelaient et tout. Donc, test marché, ok. Plus je vois un autre type qui fait probablement 30, 40 000 balles par jour dans un magasin. Je me dis, bon, allez, fonce. On met tout.
Ce qui est rigolo, c'est que toi, tu te disais, c'est un drôle de produit, quoi. Effectivement, ça défonce pas.
Ouais.
Et il y a plus de marge.
Ouais. Donc, ça... C'est ça. À l'époque, il y avait vraiment une sacrée marge. Et c'était genre 4, 5 fois la marge que tu faisais en prenant des risques.
T'imagines de quoi foutre tous les dealers au chômage, quoi.
Ouais, bon, c'est pas vraiment la même clientèle. c'est pas vraiment la même clientèle. Moi, personnellement, je suis consommateur de fleurs de chanvre à haute teneur en CBD et faible teneur en THC. Mais jamais, plus jamais je consommerai de THC et THC. Je fais crise d'angoisse, parano, pâteuse, tout le bordel. Donc, je suis plus client THC, mais je suis client CBD. En fait, si tu veux, moi, je fumais à l'époque 10-15 joints jour, d'accord ?
Ça te speed ou ça te calme, toi ?
Non, ça speed personne, c'est des menteurs. Les gens qui disent ça les speed, c'est des gros menteurs. Je te le dis d'expérience, quand tu passes de 10-15 joints à zéro, tu te rends compte en fait que ton cerveau il est beaucoup plus puissant que ce que tu imaginais, que tu as beaucoup plus d'énergie en réserve que ce que tu pensais. Et je me retrouve à faire genre des nuits, je sais pas, de 5 heures de sommeil et me réveiller à 6 heures du matin, t'as fait jusqu'à minuit et sans aucune fatigue, réellement. Bon, après, indépendamment de ça, t'as l'euphorie de la première entreprise, du fait que ça fonctionne, etc. Donc t'es vraiment à fond. Et
ouais, il y a une vraie euphorie, j'aime bien ce mot euphorie en plus.
Ouais, c'était un délire total.
T'étais en phase maniaque permanente, t'étais super content.
Ouais, super content, super content. Moi, je crie toute la journée plutôt. Je crie sur tout le monde tout le temps. Maintenant, j'ai arrêté.
Et quand est-ce que tu commences à pouvoir te verser un salaire ?
Je pense au bout d'un an, et demi, quelque chose comme ça.
Le mec avec qui tu t'étais associé, il avait de la thune ?
Ouais, un petit peu d'argent de côté, parce qu'il travaillait. Une bonne assise par rapport à ses parents. Bonne assise en plein jour, appartement.
Donc il pouvait plus investir que toi éventuellement au départ.
Mais on a investi la même somme. Ouais. De mémoire, peut-être il y avait 100 balles ou 1000 euros de différence, mais un truc anecdotique quoi.
Et donc au bout d'un an, tu peux te payer. Et au bout d'un an, t'as combien de boutiques ?
Au bout d'un an, j'ai combien de boutiques ? Je pense que j'avais 4 magasins en un an.
4 magasins, donc ça reste...
Ça reste totalement...
À échelle humaine.
Ouais. Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que justement, cette personne, je ne suis plus associé avec elle. Aujourd'hui, c'est toujours mon pote, mais il a remonté un autre business. Et moi, je suis tout seul dans ma société parce qu'il n'avait pas trop envie de se prendre le chou et d'aller vite comme moi, je voulais aller vite. Et à la fin, je lui ai dit stop, on arrête.
Et là, t'es passé à la vitesse supérieure, alors ?
Je suis passé à la vitesse supérieure. Alors, il est sorti. Ensuite, j'ai dû rattraper tous les problèmes qu'il avait créés. Ça m'a pris peut-être...
Quand même, un truc, c'est que c'est un peu une embrouille de business, un désaccord, on va dire, qui implique de l'argent. Et là, vous n'êtes pas en mauvais terme.
Non.
Donc ça, c'est quand même assez...
En tout cas, moi, je passe du bon temps avec lui. Peut-être qu'il me déteste au plus profond de lui.
Mais a priori...
Ouais. Je pense que c'est un pote.
Donc tu penses que c'est pas parce qu'on crée un business ou qu'on a des affaires pécuniaires ou financières ensemble que s'il y a un désaccord, forcément ça se passe mal. Tu penses que c'est pas
nécessairement bien, ouais. Bon, après, je vais pas te mentir, le moment du désaccord, ça s'est un petit peu mal passé.
Ça a crié.
Ouais, ça a crié un petit peu, après il m'esquivait un petit peu, mais ça s'est réglé. Aujourd'hui, je pense qu'on est potes.
C'est quoi tes premiers salaires ?
1000 ou 1500, quelque chose comme ça.
C'est pas non plus ouf, hein ?
Non.
Pour le boulot que t'avais ?
Après, quand tu travailles toute la journée...
Tu dépenses rien ?
Ouais, tu dépenses rien, c'est ça. Et puis, quand t'es entrepreneur, du coup, t'as la carte pro. Donc, vu que tu travailles tout le temps, si t'as des dépenses, elles sont très, très, très souvent liées à ton activité. Donc, c'est la carte pro qui est la société qui prend en charge. Et j'avais pas spécialement besoin de salaire. Donc ouais, ça a pris peut-être un petit peu moins d'un an en réalité. Hein. Maintenant que j'essaie de me refaire le schmilblick, peut-être 8 mois, 9 mois, 10 mois, quelque chose comme ça, avant que je commence à me mettre un salaire.
Et ouais, la carte pro, ça veut dire que tout ce que tu veux acheter, en fait, tu récupères la TVA.
Bon, après, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais typiquement la nourriture en déplacement, c'est la carte pro qui prend en charge. Location de voiture pour un déplacement, c'est la carte pro qui prend en charge. Après, si tu pars en vacances ou que tu veux t'acheter des vêtements, c'est pas la carte pro, bien sûr. Mmh. Mais les vacances, c'est pas mon truc, les vêtements, c'est pas mon truc, m'en fous.
C'est quoi tes luxes à toi ?
Mon luxe à moi ?
Les trucs que t'aimes t'acheter ou tes craquages ou les trucs.
Je sais pas, je pense les montres. Je pense j'aime bien les montres, ouais.
T'as une super montre là ? Je suis nul en montre.
C'est pas un truc incroyable non plus, c'est une Omega. J'aime bien les Rolex, je suis souvent à l'affût des bonnes affaires. Mais même ça, je sais même pas si c'est des craquages. Parce qu'en gros, quand t'achètes une montre et que tu connais un petit peu, si tu fais pas n'importe quoi avec la montre et n'importe quoi au niveau de l'achat, en général, tu fais de l'upside. La dernière montre que j'ai achetée, en l'achetant, j'avais déjà fait 10 000 euros de bénéfices. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un craquage. Mais de toutes les manières, c'est ce que je te disais il y a deux secondes. Quand tu travailles tout le temps, tu peux pas claquer de l'argent n'importe comment. C'est si j'étais pas en train de travailler, peut-être je serais à Bali et j'aurais dépensé 20 000 balles en deux semaines. J'aime les jolies choses. J'aime les jolies choses. Je sais pas, je suis en déplacement, je vais prendre un joli hôtel. Après, je vais rester 6 heures dans l'hôtel, ça qui est un peu débile.
Raconte-moi comment ça s'est passé après quand t'as mis le coup d'accélérateur.
Alors, je te refais le truc. On s'est arrêté à 2019. Je rencontre quelqu'un, un garçon super intéressant, Julien Guillaume, qui me dit j'aimerais bien ouvrir des franchises. Je crois qu'il vient vers moi, il me dit ça. Je le bâche un petit peu par rapport à mon ex-associé. J'arrête mon ex-associé, je reviens vers lui. Il ouvre ses franchises. Lui, il a un sacré réseau. Au final, il commence à ramener des gens pour des franchises. Fin 2019, on est plus ou moins dans cette situation et j'ai pas mal de franchises dans le pipe qui sont en cours d'ouverture. Et 2020, lockdown. Lockdown, j'ai, je sais pas, 5, 6, 7 magasins qui sont en cours d'ouverture en franchise, plus moi 5 magasins en interne. Et quand le lockdown il est levé, j'ai peut-être 10 ou 15 magasins qui ouvrent, quelque chose comme ça. Et puis après, tout s'enchaîne très vite. Il y a un engouement sur ce marché à ce moment-là.
Donc ça veut dire que pendant tout le lockdown, toi, t'as bossé comme un dingue.
Ah, meilleure vie le lockdown. Meilleure vie. Pas de temps dans les embouteillages, tout est fluide. Et puis, c'était une sorte de moment de pause où j'avais l'impression de prendre de l'avance. C'était grave cool. Où j'avais l'impression que tout le monde était en pause et moi, je prenais de l'avance.
Tu gagnais ta vie à ce moment-là? Parce que du coup, les magasins sont fermés.
Mais t'avais beaucoup de magasins qui faisaient du click and collect. Je crois que c'était ça qui était autorisé. T'avais la livraison, on avait le site internet. On a lancé le site internet, sauf erreur, à ce moment-là. On a perdu un petit peu d'argent sur les canaux qu'on avait avant le lockdown. Mais comme on a ouvert d'autres canaux pendant le lockdown et à la levée du lockdown, on a glow up de fou. Et puis t'avais un contexte aussi, mais là je parle vraiment macro au niveau du marché, où t'as eu une galère un petit peu, tu sais, toutes les frontières étaient fermées, je crois qu'il y avait un petit bordel avec le Maroc, donc t'as eu des galères d'approvisionnement sur le marché noir, et t'as beaucoup de gens qui se tâtaient potentiellement à essayer le CBD ou qui l'avaient essayé début 2018 quand c'était encore un peu dégueulasse et très très cher, qui sont arrivés sur le marché du CBD, et je pense que le marché a énormément grossi pendant et grâce au lockdown.
Ah, mais c'est vrai que c'était compliqué pour les gens qui fumaient des joints de se fournir pendant le lockdown.
De ce que j'ai compris, ouais.
Dans ta motivation, il y a l'idée de devenir un, je sais pas... une sorte de super successful businessman
Bah, à ce moment-là, non. Là, c'est plus, OK, on a trouvé quelque chose qui fonctionne à peu près, on va le faire du mieux qu'on peut. On n'est pas en mode compétition du tout. On est en mode, il y a de la demande qui rentre, on va essayer d'honorer cette demande du mieux qu'on peut. Et puis, au fur et à mesure, on prend des places. Après, on se dit, OK, il faut tout arracher.
Il faut tout prendre, c'est ça?
C'est pas il faut tout prendre, parce que je pense qu'il y a de la place pour pas mal d'acteurs sur le marché. Mais c'est plus en plan, j'ai une opportunité de très bien gagner ma vie. Je vais essayer de l'exploiter du mieux que je peux. Parce que je sais pas si je pense ça profondément ou si je me suis créé ça parce que c'est une bonne justif. Mais c'est un peu manquer de respect à toutes les personnes qui n'arrivent pas nécessairement à bien gagner leur vie. D'avoir une opportunité aussi immense en face de soi et ne pas l'exploiter à 100% parce que flemme de se réveiller, flemme d'aller à un rendez-vous, flemme de prendre l'appel, ce genre de choses. Donc on fait du mieux qu'on peut.
Ah, c'est combien le chiffre d'affaires de ta boîte?
L'année dernière, on a tapé 21 bâtons, un petit peu plus.
21 bâtons, c'est 21
M.
Millions. Hein.
Ouais, exact.
Donc j'imagine que tu as augmenté ton salaire personnel ou tes revenus. Ou t'as des... De toute façon, tu as des parts déjà.
Je suis à 3000.
T'es à 3000, c'est pas non plus fou. Ouais,
tu sais, quand tu montes une société et que tu gagnes un petit peu d'argent, tu te payes pas en salaire. Et puis, indépendamment de ça, déjà, encore une fois, je suis toujours dans le même contexte où je travaille tout le temps. Donc la quasi-totalité de mes dépenses, c'est carte pro. Parce que c'est dans un contexte professionnel. Et indépendamment de ça, quand tu fais des bénéfices, tu peux te verser des dividendes. Donc si demain j'ai besoin d'argent, je vais plus aller taper dans l'argent que la boîte me doit plutôt que m'augmenter mon salaire. Par rapport aux charges, tout ça, c'est pas nécessairement intéressant de se mettre des gros salaires.
Tout ça, tu l'as appris tout seul ?
Non, je pense qu'il y a mon père qui m'a un petit peu aidé là-dessus.
Ah, il avait une boîte, lui ?
Ouais.
Il a une boîte,
ouais.
Toujours d'ailleurs. Ouais, donc il t'a quand même filé quelques conseils.
En fait, comment dire, c'est pas des conseils techniques sur le moment, mais des... Disons qu'il m'a bien éduqué, il m'a donné les bonnes manières de réfléchir, la curiosité, l'envie, tu vois, toutes ces choses-là. Je pense que c'est plus important qu'un père qui vient et qui dit « Mon fils, déjà, un, il faut bien travailler, et deux, t'as meilleur temps de te payer en dividende plutôt qu'en salaire. »
T'as 25 ans, on est presque autant de millions que d'années. Est-ce que t'arrives à les réaliser ? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, cette somme ?
Non, pas du tout.
C'est abstrait ?
Je sais. Ouais, de ouf.
Ouais, c'est ça.
Et puis c'est même tout à l'heure, on parlait de Valo, c'est hyper virtuel, ces choses-là.
Ouais. Oui, tu sais pas si demain, si tu l'avances, il y a quelqu'un pour l'acheter à ce prix-là.
Là, on est dans un up. Peut-être que l'année prochaine, il y a un down.
T'y penses tout le temps, hein ?
Ouais.
T'as quand même l'angoisse que tout pourrait se crasher comme ça s'est déjà crashé pour toi.
Je pense pour tout le monde.
Ouais,
faut vraiment être fou pour pas avoir conscience de ce genre de choses.
T'as pas l'impression d'être arrivé ou d'être en sécurité financière ?
Pas en sécurité financière par rapport à la boîte, mais en sécurité financière par rapport au mindset et par rapport à ce que j'ai appris, ouais. Je sais que je peux faire tout et n'importe quoi relativement bien. Enfin, ça va.
Tu te sens pas inquiet ?
Non.
Et l'idée, par exemple, de tout vendre et profiter simplement de...
Je suis un garçon qui s'ennuie vite. Je suis allé à la plage une fois, genre ces 3 ou 4 dernières années, pour faire plaisir à un ami à moi, pendant 2-3 heures, et je me faisais incroyablement chier. Là, j'ai promis à ma femme des vacances, j'appréhende un petit peu.
Du coup, c'est presque un jeu, la boîte ?
Ouais, on peut le voir comme ça.
Et l'argent, ça serait les points qu'on gagne et les points qu'on perd, je sais pas.
C'est qu'en plus, je suis un gros geek, moi, à la base. J'aime trop les jeux vidéo. Donc ouais, peut-être que je le vois comme ça au fond de moi, comme un jeu vidéo, avec beaucoup d'enjeux.
Et ça pourrait aller jusqu'où ?
Je suis un compétiteur. Ça peut aller très très loin. Je pense que le marché du cannabis mondial, il est monstrueux, qu'il n'a strictement rien à voir. Il n'a pas la même dimension que la dimension dont on est en train de parler là. On parle de, je sais pas, j'ai pas de chiffre en tête, mais déjà milliards, c'est sûr, après dizaines, centaines, je sais pas.
Est-ce que ça t'a changé le fait d'avoir un succès professionnel et financier, entrepreneurial ? Est-ce que ça a changé tes habitudes, tes comportements, ta façon d'apparaître au monde ? Tu parlais des montres tout à l'heure, par exemple. Bon.
C'est un petit peu le contexte aussi, si tu veux. Tu restes pas avec les mêmes personnes, donc ouais, tu changes doucement d'habitude.
Ah oui, tu rencontres des nouvelles personnes.
Ouais. Ouais, clairement. Avant, je restais avec des gens qui n'avaient pas le permis. Aujourd'hui, les gens avec qui je reste, ils roulent en Lamborghini ou en Porsche. Donc, ouais, un petit peu.
T'as l'impression qu'ils sont fondamentalement différents ?
Je reste avec des gens qui sont un petit peu plus malins qu'avant. Peut-être. Désolé pour tous les gens avec qui je restais avant, mais je suis sûr que ça va devenir plus malin dans le temps, comme moi.
Et alors, du coup, tu fais bosser ton papa maintenant ? Ça, c'est fou aussi. Donc, tu lui as fixé un salaire, tu l'as embauché, tu lui as fait...
Oui, je fixe tout seul son salaire. Si je fais des augmentations tout seul, j'ai rien à dire là-dessus. J'aimerais pas intervenir et avoir ce genre de discussion avec lui.
Bon, tes parents doivent être extrêmement fiers, j'imagine, de toi, non ?
Ouais, je pense. J'espère. Oui, ils me l'ont déjà dit plein de fois, bien sûr. Tes
frères et sœurs, bon, j'imagine qu'ils n'ont pas un parcours aussi de la win, parce que pas grand monde a un parcours aussi de la win.
Ils sont plus jeunes que moi, mais ma petite sœur, elle est là dans les bureaux. Elle était dans les études, et puis là, elle vient faire des trucs un petit peu avec nous pour apprendre... le pratique, et arrêter un petit peu avec le théorique. Et mon demi-frère, du coup, il est à l'école, il est beaucoup plus jeune.
Est-ce qu'il y a, depuis que tu réussis, il y a des gens qui ont essayé de te taper de la thune ?
Depuis même avant que je réussisse, ça.
Comment tu gères ?
Soit je dis non, soit j'ai envie, et je dis oui, de bon cœur.
Ah ouais, donc c'est quelque chose auquel t'es habitué.
Oui.
T'es pas gêné par le fait que des gens...
m'empruntent de l'argent.
Ouais, ou te voient comme éventuellement le mec qui a du fric, et donc... À qui on peut l'emprunter ?
Du coup, je rebondis sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais peut-être que tout le monde m'a toujours vu comme le mec qui a du fric.
Déjà, même avant, quand tu vendais de la drogue, ouais. Tu veux dire... Ouais.
Donc, j'ai pas de soucis avec ça. avec un oui ou un non ou ce genre de demande. Ça arrive hyper régulièrement.
Tu te vois où dans 10 ans?
Alors là.
Tu te vois. Ouais.
Dans un jet privé.
Pour de vrai, ça te ferait rêver?
Non, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça me ferait rêver un jet privé? Pour les déplacements, ouais, de ouf. De ouf. C'est un délire. D'ailleurs, tu vas aller, je sais pas, à Paris, boum, une heure, tu vas à l'aéroport quand tu veux, t'attends pas, tu passes par la petite porte, t'as ton pilote qui t'attend, tac tac, c'est réglé.
Tu te vois dans les 0,1% éventuellement.
0,00001%, ouais.
Bon bah, on s'en reparle dans 10 ans, peut-être avant alors.
Bon, on va faire de notre mieux en tout cas.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.